Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants. C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de Fréquence 7, cette radio que nous adorons tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir des contes d'Amérique latine. On commence tout de suite avec la première histoire. On dit que l'Empire Inca a été fondé par Manco Capac et Mama Oclo. On dit que c'était au temps de l'amour et de la joie. On dit que leur fils cadet tomba un jour éperdument amoureux d'une jeune fille au cours de ses promenades quotidiennes. Il se promenait parmi les temples et les palais de Cusco, mais malheureusement, la jeune fille dont il tomba amoureux était l'une des vierges vouées à vie au culte du Père Soleil, et il était strictement défendu de tomber amoureux d'elle. Le jeune homme, désespéré par son amour impossible, consulta les sages de l'Empire, les sorciers du village, invoqua les dieux de ce monde et ceux qui ne sont point parmi nous. Et tous lui conseillèrent de ne pas persister dans cet amour. S'il continuait à voir la jeune fille, il finirait par éveiller la colère de son père Manco Capac. Mais sa passion fut plus forte que tous les conseils. Un jour, résolu à vaincre les obstacles, il demanda audience à son père et il lui raconta tout. Le grand Manco Capac fut très courroucé par l'attitude du jeune homme. Mais au lieu de le punir, comme l'exigeait son devoir, il lui expliqua pourquoi son amour était une grande offense au dieu créateur Wiracocha. Et lui dit « Fils bien-aimé, écoute-moi et rends-toi à mes raisons. Toi qui as été élevé par les sages les plus puissants de mon gouvernement, tu sais parfaitement que si je consens à cet amour qui te déchire, je violerai les lois sacrées édictées par notre père créateur, Wiracocha. Tu sais que ces lois doivent être respectées par tous les humains, sans exception. Tu sais aussi que les vierges du soleil sont exclusivement destinées au culte et qu'il leur est interdit de vivre ou de se marier avec les hommes ordinaires. Je t'ai écouté et je comprends ta tristesse. Je demande la même chose en échange. Oublie cette femme et ne m'oblige pas à te punir. » Confronté aux paroles sévères de son père, le jeune homme, tête basse et à reculons, quitta le palais en sanglotant. Aveuglé par l'amour et oublieux des raisons de son père, il se rendit tout de même au temple des vierges et convainquit la jeune fille de fuir avec lui. Ils s'enfuirent très loin de la capitale de l'Empire, dans un petit village où personne ne les connaissait. Ils se marièrent et s'en furent se cacher dans les hautes montagnes. Mais ils savaient que tôt ou tard, le père du jeune homme saurait tout. Et très vite, le père comprit ce qui s'était passé. Il ordonna à ses gardes de rechercher le couple et de l'amener en sa présence pour lui infliger la peine de mort. Mais les pleurs et les supplications de sa mère, qui lui expliquait que le péché d'amour n'était pas si grave, finirent par le convaincre. Et finalement, il leur accorda la vie sauve. Cependant, comme il ne consentait pas à ce qu'une faute aussi grande reste impunie, il condamna son fils à vivre en exil dans les hautes montagnes, parmi les animaux sauvages. Et la jeune fille, qui avait déjà un fils du jeune prince, fut chassée hors de l'Empire. La séparation fut plus terrible que la mort pour les deux amoureux. Aucun d'eux ne pouvait la supporter. Le jeune homme errait par les montagnes, délirant et jouant sur sa quena des mélodies si tristes que les villageois qui les entendaient se mettaient à pleurer. D'autre part, la jeune fille implorait le dieu Wiracocha pour qu'il les prenne en pitié. Ses suppliques désespérées étaient si ferventes que notre père, Wiracocha, eut pitié des époux et permit leur réunion. mais pour ne pas violer ses propres lois, il changea la jeune femme et son fils en lama. Lorsque le père se rendit compte de l'apparition de ces nouveaux petits animaux si tendres et si dociles, ces animaux qui avaient un regard humain et fier, il ordonna aussitôt à ses soldats de les capturer. Et il convoqua les sages et les prêtres pour qu'ils lui expliquent ce phénomène. Une fois qu'il les eut écoutés, il eut pitié de son fils et lui accorda la vie sauve. Cependant, craignant que le couple ne finisse par se réunir de toute façon, il ordonna le sacrifice des deux lamas. Les lamas, en entendant la sentence, se mirent à gémir, comme nous les entendons le faire aujourd'hui lorsque le danger les guette. Mais par une matinée très froide et très triste, ils furent sacrifiés dans le grand temple du soleil. Au moment de leur mort, tous ceux qui assistaient à la tragédie virent monter au ciel l'esprit des deux lamas, qui se transformaient peu à peu en cette constellation que l'on appelle constellation des lamas. Et le jeune homme, lui, ne put supporter l'absence de sa bien-aimée et de son fils. Alors un jour que tout le monde fêtait l'Inti Raymi, la fête du soleil, il mourut de tristesse et monta lui aussi au ciel à la rencontre de ses amours. Dans l'infini, tous trois formèrent ce que nous appelons aujourd'hui la constellation des lamas. Voici donc, dans ce conte, l'origine des lamas et d'une partie de la Voie lactée. On continue avec une histoire qui s'appelle « Les enfants étoiles ». Il y a de cela bien des années, dans notre forêt du Chaco bolivien, une pluie torrentielle qui avait duré une semaine s'arrêta soudain, ouvrant la voie à une joie inaccoutumée qui envahit toute la forêt. Deux immenses arcs-en-ciel la traversaient du nord au sud et d'est en ouest, colorant superbement le ciel. Les timides rayons de soleil qui parvenaient à percer l'épaisse végétation formaient un voile illuminé, permettant de voir les perroquets caracara volant d'un arbre à l'autre. Une bande de singes hurleurs installés dans un arbre aux fruits jaunes dansait avec enthousiasme au rythme battu par un groupe de pics sur un autre arbre violacé. Toute la forêt joyeuse était une grande scène de théâtre colorée et musicale. Dans un autre lieu de la forêt, une famille d'Indiens chiriguano chantait gaiement, tout en sortant le miel d'une ruche installée très haut dans les lianes à grosses fleurs rouges. Quand ils eurent rempli leur panier de la précieuse substance, ils regagnèrent leur campement, où là aussi la joie régnait. Les femmes, vêtues de jupes courtes en paille jaune et plumes de couleur, cuisinaient le manioc dans de grandes marmites de grès rouge. Un groupe d'hommes dansait et jouait de la flûte, ces longues flûtes de bambou appelées waipuru. D'autres allumaient une belle flambée. Ils étaient tous parés de bracelets, de colliers et de couronnes richement ornées de plumes. Les enfants jouaient sur la rive du fleuve, sautant dans l'eau du haut d'un tronc taillé en forme de serpent. Tout n'était que joie. Soudain, un vieillard se mit à tambouriner lentement sur un tronc de percussion. Les sons étaient graves, espacés et cérémonieux. Et la forêt se fit silencieuse. Les femmes coururent chercher les enfants, les réunirent tous devant le musicien. Et celui-ci leur dit « Mes enfants, beaux fruits des femmes et des hommes chiriguano, la fête du printemps, de la création, va commencer d'ici très peu de temps. Et comme tous les ans, j'ai le devoir de vous expliquer que c'est une fête exclusivement réservée aux adultes. Vous ne pouvez pas y participer. Nous vous avons donc préparé, dans la grande maison commune, des friandises au miel, du lait de coco, des bananes confites, du nectar de fleurs et des racines douces. Enfin, toutes les douceurs dont vous raffolez, vous pouvez manger tout ce que vous voudrez. Mais vous ne pourrez sortir de la maison commune sous aucun prétexte. Si l'un d'entre vous en sort, nous autres, les chiriguano, nous serons châtiés par l'esprit père de la forêt. Promettez-moi d'être obéissant. » les sons du tronc de percussion résonnèrent plus forts et plus graves. L'ancien contempla les enfants avec tendresse, et ceux-ci lui répondirent d'une seule voix « Obéissants nous serons, notre grand-père à tous !» Ils se donnèrent la main et, en dansant, commencèrent à entrer dans la maison commune qui était si joliment décorée. Sur d'immenses nattes en feuilles de bananier tressées, les gourmandises préparées par les grandes personnes étaient un vrai régal pour le palais et les yeux. Waïta était une jeune indienne de 3 ans et elle participait pour la première fois à la fête. Elle entra silencieusement et alla s'asseoir dans l'endroit le plus obscur de la maison commune. Elle avait peur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et elle voulait être avec sa mère. Pendant que les autres enfants jouaient, chantaient, riaient, la fillette répétait d'une toute petite voix entre 2 sanglots « Je veux ma maman. Je veux être avec ma maman. » Dehors, la fête avait commencé et les chiriguanos dansaient, buvaient et chantaient frénétiquement autour de la flambée. Les femmes aussi chantaient leurs propres chansons en s'accompagnant de grelots fabriqués avec ces énormes gousses qui ressemblent aux haricots verts. La nuit s'était emparée de la forêt et seule la lumière de la flambée permettait de voir les silhouettes des danseurs. Waïta, la petite fille, continuait à pleurer et à réclamer sa mère. Les autres enfants tentaient de la consoler, mais elle ne les écoutait pas. Grimpée sur un tronc d'arbre, elle regardait par la fenêtre. Une seule chose l'aurait consolée, sortir de la maison commune pour rejoindre sa mère. La nuit avançait toujours. Et un à un, les enfants s'endormaient, las et satisfaits. Quand ils furent tous endormis, Waïta sortit par la fenêtre sans faire de bruit. Et comme elle arrivait à la fête, elle vit que sa mère dansait avec frénésie, comme si elle était ivre. Avec plus de peur encore, elle se mit à crier « Maman, maman !» Les adultes, en entendant ces cris, interrompirent leur musique, leur rite et leur danse, et rejoignirent la fillette. Tout le monde regardait la mère, et voyant le regard sévère que lui lançait le vieux musicien, celle-ci saisit Waïta et lui donna une petite fessée. Puis elle ramena la fillette dans la maison commune et l'y laissa. La fillette pleurait tristement et réveilla les autres enfants qui lui demandèrent ce qui se passait. Elle leur raconta que les adultes s'amusaient de façon très vulgaire et qu'en plus sa mère l'avait frappée méchamment. Tous les enfants se solidarisèrent avec Waïta, car ils jugèrent que les coups n'étaient pas une bonne manière de faire comprendre quelque chose. En silence, se tenant par la main, ils se mirent à sortir lentement de la maison commune. Les adultes, impuissants, ne sachant que faire, regardaient défiler une longue colonne d'enfants qui, à mesure qu'ils pénétraient dans les profondeurs de la forêt, montaient au ciel, changeaient en petites étoiles qui brillaient intensément. Les femmes pleuraient, les hommes tentaient de retenir leurs enfants, mais ceux-ci continuaient à monter au ciel sans que personne puisse y faire quelque chose. Ce fut ainsi qu'au temps magique, les chiriguanos restèrent sans fille et sans fils. Et depuis, les chiriguanos sont très compréhensifs et très indulgents avec les enfants. Au lieu de les punir par des coups, ils expliquent avec patience ce qui est bien, ce qui est mal, car personne n'a oublié le jour où les enfants se changèrent en étoiles. What a wonderful world. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un animal que vous connaissez bien. C'était un vendredi matin. Alors que nous revenions de la pêche, mes 3 petits frères et moi, une bande de colibris voltigeait et chantait avec frénésie autour du clocher de mon village, qui se trouve au bord du fleuve Amazon. Des gens sortirent avec des bâtons et des pierres pour tenter d'éloigner les petits oiseaux, mais ceux-ci continuèrent à chanter. Ce fut seulement lorsque mon père entra à l'église pour faire sonner la cloche et annoncer la messe du Vendredi Saint que les colibris s'éloignèrent. Le soir, après le repas, mon grand-papa Tara, avec son charme de grand seigneur qui savait tout et comptait avec art, commença sa narration. Il était une fois, il y a très longtemps, alors que la lune ne souriait pas encore, tous les oiseaux de la forêt, de la montagne, de la côte et même les malheureux que les hommes gardent en cage s'arrêtèrent de chanter. C'était un vendredi et le silence était total, respectueux et profond. Quelqu'un leur avait dit qu'un homme juste et bon était mort pour eux par un vendredi pareil à celui-là. Ce fut alors qu'ils gardèrent le silence pour se solidariser avec ceux qui souffrent. Mais ici, dans la forêt, il advint quelque chose de différent. Car le colibri, qui ne chante jamais, décida que ce jour-là, il chanterait comme il ne l'avait jamais fait. C'était à cela qu'il était occupé en ce jour sacré, lorsque le grand perroquet de la forêt, seigneur et roi des oiseaux de ses contrées, s'en alla le trouver et lui dit « Silence, insolent sacrilège, ne chante plus. Ne comprends-tu pas que cet homme a donné sa vie pour nous et que tu pourrais au moins garder un silence respectueux comme le font tes frères ?» Le colibri, tout à fait furieux, se mit à tourner autour de la tête du grand perroquet et s'arrêtant soudain devant son bec menaçant, sans cesser de volter, lui dit de sa petite voix « Écoutez-moi une bonne fois pour toutes, seigneur perroquet. Je suis différent, moi je m'exprime d'une autre manière. Quand tout le monde chante, je suis silencieux. Je ne peux donc manifester ma solidarité avec cet homme de la même façon que vous. De plus, je crois avoir la liberté de m'exprimer à ma guise. » Le colibri parlait si fort que tous les oiseaux de la forêt vinrent l'écouter. « Tous les jours, des hommes meurent pour d'autres, et par respect, mon silence est quotidien. Je le maintiens aussi en pensant à mes frères que l'homme met en cage. Seigneur perroquet, je suis libre parmi les libres, car je suis aussi vif que l'éclair, aussi inaccessible que l'âme pure et l'esprit. » Oui, seigneur perroquet, je suis différent et je mérite le respect. Je ne sens pas mauvais comme votre cousin le corbeau et je ne mange pas d'animaux morts comme le vautour, pourtant je les respecte. En revanche, moi, qui fleure les parfums de fleurs, qui, par mes vols fulgurants, glorifie le Dieu des hommes et qui réunit sur mon petit corps toutes les couleurs de l'univers, vous venez me dire que je n'ai pas le droit d'être différent ? S'il vous plaît, seigneur perroquet, acceptez-moi tel que je suis. Mon attitude rebelle est aussi une preuve d'amour. Acceptez-moi, dit le colibri en baissant le ton. Il se fit un lourd silence. Tous les oiseaux se concertaient en murmurant doucement. Soudain, ils ouvrirent leurs ailes et avec un geste d'humilité, reconnurent la différence du colibri. Depuis ce jour-là, le colibri est le seul oiseau qui chante le Vendredi Saint. Mais certains hommes ne peuvent toujours pas comprendre et accepter la différence. C'est pourquoi certains habitants de notre village continuent à le considérer comme un oiseau insolent et irrespectueux. Voilà, c'est déjà temps de nous quitter. Si vous voulez réécouter ces histoires, eh bien, c'est le mercredi à 16h, le samedi à 16h aussi. En attendant nos retrouvailles sur les ondes de fréquence 7, eh bien, chez vous, à vos amis, à votre famille, à ceux que vous aimez, il suffit de raconter des histoires.